quoi ton truc? Carte Stade Quintier. Mmh.
Oui. Oui.
Bonjour à tous. Donc je vais essayer de m'insérer dans cette journée Cartostat avec plusieurs excuses pour commencer. La première, c'est que en fait les exemples que je vais montrer ne sont pas spécifiquement de cartographie statistique, mais ils pourraient s'appliquer aussi à de la cartographie statistique. Et une deuxième excuse, c'est que j'ai entièrement perdu ma présentation ce matin, et donc en voulant intégrer un tableau récapitulatif dans mon PowerPoint dans le train ce matin, j'ai vu que je n'avais plus ma présentation, donc je l'ai intégralement refaite depuis 6 heures ce matin. Voilà, donc c'est beaucoup moins joli, c'est peut-être moins volontaire que le groupe précédent où ils ont dit que c'était épuré. Moi, c'est épuré de manière un petit peu forcée, voilà. Donc j'espère aussi que j'arriverai à tenir mon fil. Évidemment, comme j'avais fait la présentation, j'avais le fil en tête. Ce qui va beaucoup manquer, c'est des illustrations. Et parmi les 3 exemples que je souhaitais présenter, il y en a un que je ne présenterai pas finalement. Alors, de quoi est-ce que je vais vous parler? Je vais vous parler de choses qui ont été beaucoup évoquées aujourd'hui, qui sont les notions de perception de la carte, c'est-à-dire qu'on va se passer du côté non plus du fabricant de la carte, du cartographe, mais on va se placer du côté de l'utilisateur. Et donc, je vais essayer de vous présenter différentes expérimentations que je n'ai pas pu mener personnellement, dans le sens où ce n'est pas moi qui les ai faites, mais pour lesquelles j'ai encadré des étudiants de sciences cognitives de l'Université Lyon 2, donc d'un laboratoire qui s'appelle Études des mécanismes cognitifs, pour lequel en fait j'ai eu successivement plusieurs financements pour leur proposer des stages relatifs à la perception de cartes que l'on produisait dans d'autres contextes de recherche. Et je vais donc vous expliquer au fur et à mesure ces différents contextes de recherche. Donc il y a 3 projets de recherche autour desquels ces expérimentations ont été menées depuis 2011. Et en fait, je suis très contente de faire cette présentation aujourd'hui, enfin j'étais très contente de la préparer, parce que je n'avais jamais mis en perspective ces différentes expériences. Et c'est vrai qu'en faisant ce tableau récapitulatif que vous ne verrez pas, je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment synthétiser ces expériences, enfin montrer un peu ce qui se faisait, parce qu'en plus c'est quelque chose que j'ai peu communiqué dans la communauté des cartographes, une fois à Sageo sur un poster, et une autre fois les étudiants sont allés présenter ça à une session spécifique sur la perception cartographique. Donc c'est quelque chose qui est encore assez peu diffusé comme information, et donc j'étais contente de le faire ici, même si ça virait un peu au vinaigre. Voilà, alors les projets, je les présenterai spécifiquement après. L'idée, ça ne va pas être de les prendre dans l'ordre chronologique, mais on va dire que ça va être de les prendre du plus simple test de perception que l'on peut faire jusqu'au plus complexe. C'est un peu ça la trame de la présentation. Et vous verrez que ça finira sur une dimension assez critique de tous ces tests. Donc je pense que je ne vais pas pouvoir m'empêcher de distiller cette dimension critique au fur et à mesure. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que ces tests de perception vont permettre de mesurer différentes choses par rapport à la carte. La première chose dont on parle beaucoup avec la sémiologie graphique, dans l'article qui est sur Vision Carto, là, sur la sémio qui vient juste d'être publié, il y a un petit paragraphe sur l'efficacité. Les variables visuelles, il y a la notion d'efficacité derrière. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut mesurer. Donc, vous allez voir comment ça se mesure très facilement et en même temps un peu pauvrement, entre guillemets. Donc ça, c'est la première chose, c'est l'efficacité qu'on peut mesurer. On peut mesurer la mémorisation. Ça, on va dire que c'est à l'autre bout de la chaîne, c'est la chose la plus complexe à mesurer. Comment est-ce que l'information cartographiée est mémorisée par l'utilisateur? Et Une troisième chose qu'on a essayé de faire, c'est de voir comment le mode de représentation peut influencer sur la prise de décision par l'utilisateur, puisque vous allez voir, ce n'est pas du tout un cas d'utilisation de cartes statistiques. L'utilisateur doit choisir de se rendre dans un endroit ou dans un autre en fonction des informations qu'il a sur tel ou tel endroit. Donc il doit prendre une décision en regardant la carte. Donc c'est cette prise de décision qui est mesurée ici. Alors, en plus, ces trois domaines-là relèvent vraiment de la science cognitive à proprement parler. À ces tests-là sont accolés d'autres types d'enquêtes ou de recueils d'informations qui sont plus connus des géographes. On fait simplement des choses sur des échelles d'appréciation. Est-ce que vous appréciez cette présentation, ce mode de représentation par rapport à un autre ? Et on essaye d'évaluer les usages, c'est-à-dire qu'est-ce qui est important pour vous, comment est-ce que on vous a demandé de faire telle tâche lors du test, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre stratégie. Donc tout ça, c'est des choses aussi qu'on recueille lorsqu'on fait ces tests dans le domaine des sciences cognitives. Alors, on voit les buts sont différents, les méthodes aussi vont être différentes. Donc j'ai mis quelques méthodes qui portent des noms qui sont en fait hyper codés, mais qui sont en fait des choses hyper simples. Donc il y a des tests qui s'appellent des tests à choix forcé. Vous êtes obligé de faire un choix, d'accord ? Vous avez le choix entre deux, il faut que vous répondiez de toute façon. Il y a des tests qui s'appellent des tests de rappel indicé. Alors ça veut simplement dire qu'on va vous remontrer, on va vous montrer par exemple plusieurs cartes, puis après on va vous en remontrer une. On va vous dire à quel moment elle est apparue dans toutes celles que vous avez vues, ou qu'est-ce qu'il y avait avant, qu'est-ce qu'il y avait après, etc. Et ce qu'on va faire aussi, c'est des mesures sur des échelles d'évaluation. Donc ce que l'on teste en général, c'est différents modes de représentation, c'est-à-dire qu'on va finalement créer plusieurs cartes qui représentent la même chose, mais ce qu'on va faire varier, c'est la façon dont on le représente. D'accord ? Donc on va faire varier la façon dont on le représente, et il y a deux options. C'est soit on montre aux utilisateurs qui passent les tests toutes les cartes qu'on a créées. Ça, c'est la première possibilité. Soit on fait des sous-groupes. À certains utilisateurs, on montre des cartes, à certains autres utilisateurs, on monte une autre catégorie de cartes, et après on compare les résultats entre les différents groupes. Donc ça, c'est les deux grands types de méthodes vis-à-vis des utilisateurs. Et ce qu'on va mesurer à l'issue de ces tests, ce sont deux choses, à la fois des temps de réponse, mais aussi des bonnes ou mauvaises réponses, quand il y a bonne ou mauvaise réponse à donner. Et dernière chose que je n'ai pas remarqué là, évidemment, quand on fait des échelles d'évaluation, on va relever une note comme mesure du résultat du test. Alors, je vais commencer à rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec un projet sur lequel on a fait où il y a eu deux stages successifs par des étudiants de sciences cognitives. Donc, ce projet, il s'appelle Unimap pour... un projet qui est réalisé avec des informaticiens. L'idée est de partir d'un ensemble de bases de données, de serveurs cartographiques qui donnent des informations sur les points d'intérêt. Donc ici, on a pris par exemple un hôtel de Saint-Étienne. Et cet hôtel, vous voyez que selon les différentes bases de données, soit il n'est pas situé au même endroit, soit les informations relatives à cet hôtel sont différentes d'une base à l'autre, soit il n'existe même pas dans la base de données. Donc l'idée du projet Unimap, c'est de se dire ce qu'ont fait les informaticiens, c'est de créer automatiquement un algorithme qui va interroger tous ces serveurs de données cartographiques et qui va créer ce qu'on appelle un point d'intérêt intégré, c'est-à-dire qu'il va faire en gros la moyenne de tous ces points, il va vous donner les informations en disant, si je prends la moyenne de tout ce que les gens ont dit, l'hôtel, il doit être à peu près là. Et si les informations entre les différents fournisseurs sont assez cohérentes, on va dire que ce point d'intérêt a un niveau de confiance important, parce que l'incertitude est relativement faible. Tout le monde dit la même chose par rapport à ce point d'intérêt. Donc, on va estimer, on a une note d'incertitude sur tous les POI. Cette note d'incertitude, ou de niveau de confiance, les deux termes allant sur des échelles inverses, c'est-à-dire plus c'est incertain et moins le niveau de confiance est élevé. Ça, c'est toujours un problème après dans les tests pour bien faire comprendre aux gens ce dont on parle. Et donc ces incertitudes niveau de confiance, ils sont déclinés sur les deux aspects de l'information, c'est-à-dire est-ce que la localisation est certaine, ça c'est le premier niveau d'incertitude. Le deuxième niveau d'incertitude, c'est est-ce que d'un fournisseur à l'autre, l'hôtel s'appelle toujours pareil, est-ce que c'est toujours le même numéro de téléphone, est-ce que c'est toujours la même adresse, etc., etc. Donc un niveau de confiance qu'on va appeler un niveau de confiance attributaire. Et de ces deux niveaux de confiance, à la fois spatial et attributaire, on crée un troisième niveau de confiance qu'on va appeler un niveau de confiance global. Donc ça, c'est le travail des informaticiens. C'est pour vous, je ne peux pas vraiment vous présenter les tests sans vous avoir présenté ce contexte de travail. Donc les informaticiens font cet algorithme, etc., créent cette nouvelle information et nous demandent de leur proposer des modes de représentation pour traduire cette incertitude et ce niveau de confiance. Donc on va faire des premiers tests pour tester l'efficacité de la représentation de niveau de confiance. Donc l'efficacité, ça veut dire est-ce que les utilisateurs vont comprendre que ce niveau de confiance est plus haut qu'un autre. Alors on s'est basé sur des travaux déjà existants de McEachran qui fait ce genre de test et qui propose un certain nombre de légendes et qui va montrer celles qui sont plus ou moins bien perçues. Donc on a refait ces tests avec nos propres légendes, dont certaines sont largement inspirées de McEachran et d'autres que l'on a créées par nous-mêmes. Donc l'idée était de montrer les niveaux de confiance sur trois dimensions, enfin deux plus une qui est le produit des deux, c'est-à-dire le spatial, l'attributaire et le global. Donc ce qu'on fait, c'est que dans un premier temps, on travaille entre nous pour proposer qu'est-ce qui pourrait traduire un niveau de confiance faible, moyen, fort. On ne va faire que trois niveaux. Et on propose différents types de légendes. Alors comment on fait pour tester ces types de légendes pour savoir laquelle ou lesquelles sont les mieux perçues? Eh bien on fait un test qu'on appelle un test à choix forcé. Donc là c'est extrêmement simple comme test. On va prendre un fond de carte qui sera celui de l'application. Sur ce fond de carte, vous voyez apparaître dans la taille réelle de l'application cartographique finale les différents figurés. On met les gens derrière l'ordinateur et on leur dit, voilà, première carte, cliquez sur S si c'est donc la carte de gauche, le figuré de gauche qui vous paraît le plus certain, ou sur la lettre L si c'est celui qui vous paraît le plus incertain. Donc S et L étant opposés sur le clavier, en gros, les gens reproduisent avec leurs mains ce que leur œil voit. Au milieu, vous avez la vue intermédiaire, c'est-à-dire qu'à chaque fois, le regard doit se recentrer et on remontre une autre carte. Est-ce que c'est à droite ou à gauche que c'est le plus certain? Donc ça, c'est très, j'allais dire très basique comme test. Voilà, donc les gens, ils voient comme ça 50 figures stimuli, comme on dit, passer devant les yeux. Ils sont là, S, L, S, L, S, L. Voilà, le but étant, on leur dit, vous devez choisir le plus rapidement possible. Donc il y a quand même une notion d'efficacité derrière, puisque dans l'efficacité, il y a la notion de bonne réponse, mais il y a aussi la notion de rapidité de la réponse. Alors évidemment, tout ça est fait très scientifiquement et très reproductiblement, comme diraient mes chers collègues, mais avec, évidemment, on ne monte pas à tout le monde les cartes dans le même ordre, on change l'ordre, la position des figurés, etc., pour être sûr, pour éliminer tous les biais possibles. Qu'est-ce qu'on obtient comme réponse? On obtient deux mesures de réponse. En haut, vous avez est-ce que les gens ont bien répondu ou pas à la question. Donc, est-ce qu'ils ont bien dit, quand on leur demandait lequel est le plus sûr, est-ce qu'ils ont bien répondu ou pas? Donc, vous voyez, globalement, ils répondent plutôt très bien. Le plus faible taux de bonne réponse est de 90%, donc de mauvaise réponse de 10%, avec même un grand succès à 100% de bonne réponse. Et puis, vous mesurez en même temps le temps que les personnes ont mis pour répondre. Donc le grand, la légende, la grande gagnante, c'est celle-ci, puisqu'elle a 100% de bonnes réponses avec un temps moyen de réponse qui est de 7 secondes. Voilà, donc, non, ça fait 700 millisecondes, ça fait pas 7 secondes. Donc, voilà comment est-ce qu'on réalise ce genre de test, et puis on en déduit, ou on finit par, par notre résultat final, c'est qu'on dit aux informaticiens, très bien, pour la localisation, le plus efficace serait d'utiliser la première légende avec un point de plus en plus flou. Là, pour les attributs, le thermomètre. Pas sûr de partager complètement cette deuxième légende, et la dernière légende qui est la légende globale, l'incertitude globale sur la localisation des points. Donc ce type de test, il est relativement facile à mener, on a juste à enregistrer des temps de réponse, donc il y a des petits logiciels qui font ça, c'est très facile de recruter, on va à la cafétéria des étudiants, on dit voilà, allez, au lieu de boire votre café ici, vous venez tous faire la queue dans le couloir, et puis voilà, on les prend au fur et à mesure, et puis hop, ils répondent. Et la consigne est assez simple, les gens ne se sentent pas dans des situations où ils sont mis en difficulté par rapport à l'enquête qui leur est proposée, ce qui va arriver par la suite. Donc, une fois qu'on a donné ces recommandations aux informaticiens, ils nous produisent une interface cartographique qui va être l'objet de ces secondes série de tests. Donc, le but de cette deuxième série de tests est un petit peu plus complexe que le but de la première. On voit qu'il y a trois informations sur les incertitudes à représenter. On voudrait savoir qu'est-ce qui est le plus important pour l'utilisateur à voir en premier. Est-ce qu'il veut avoir toutes les informations sur toutes les incertitudes? Est-ce que l'incertitude globale, ça lui suffit, etc. Donc pour ça, on va faire un test en trois phases. D'abord, on va se renseigner sur les usages des utilisateurs. Ensuite, on va leur montrer toutes les solutions cartographiques possibles en leur demandant de les apprécier. Là, ce sont les mêmes personnes qui voient toutes les solutions possibles. Et ensuite, on va voir quelles décisions ils prennent, c'est-à-dire qu'on va les mettre en situation. Maintenant, vous devez choisir un endroit, un hôtel où vous rendre en fonction des informations qu'on vous donne. Alors, la mesure de l'usage, ce n'est pas vraiment une mesure scientifique, c'est simplement, on leur explique la notion d'incertitude, on leur explique ce qu'on fait dans le projet, on leur demande, maintenant, dites-nous, qu'est-ce qui est important pour vous quand vous choisissez un lieu sur une application cartographique? Et on leur montre pas de carte, on leur dit, qu'est-ce qui est important pour vous? Alors, on leur a déjà expliqué qu'il y a l'incertitude quant à la localisation, quant aux attributs, et l'incertitude globale. Et les gens répondent majoritairement, bah, l'important c'est que ça soit bien là où la carte dit que c'est. Donc l'important c'est l'incertitude quant à la localisation. C'est ça qu'on va regarder en premier. Et il y en a qui sont un peu plus mesurés, qui disent, bah, moi j'aimerais bien être sûr que non seulement c'est au bon endroit, mais qu'en plus c'est bien l'hôtel machin, et que je vais payer bien la nuit 70€ et pas 170€. Donc, un certain nombre de personnes répondent aussi que l'information qui les intéresse, c'est l'information incertitude globale. Deuxième partie du test, c'est toujours la même personne, c'est toujours le même moment du déroulé du test. Alors, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais le premier test à choix forcé, c'était un premier test, hop, on a eu les résultats, l'enquête est finie. On passe à d'autres personnes qu'on va recruter. Donc là, on va, dans ce test, présenter les cinq propositions que l'on a imaginées. Alors, j'ai dû faire une petite bêtise. Alors, c'est pas grave. Les cinq propositions, vous les avez ici en bas. Vous avez déjà les résultats, mais bon, c'est pas grave. Donc, nos cinq propositions, c'est soit on met en avant, comme ils nous ont dit que c'était la localisation, soit on met en avant la localisation, c'est ce qui est ici. Et en petit, en haut à droite, on met l'information globale. Soit on met l'information attributaire en premier, l'information globale en petit. Soit on met l'information globale relativement neutre. Et c'est la personne qui doit interpréter par rapport à la localisation, l'incertitude sur la localisation et l'incertitude sur les attributs, qu'est-ce qui est le plus sûr. Peu de chance que ça soit ça qui gagne. Global. On va simplement mettre l'information globale sur la carte et on mettra l'information sur l'incertitude quant à la localisation, quant aux attributs, dans des infobulles. Et puis, dernière possibilité, on met tout d'un coup, l'information globale, c'est la variation de valeur, et puis on met les deux petites icônes qui donnent l'information globale et locale. Et là, on dit simplement, donc on montre les cartes aux utilisateurs et on leur demande de noter sur une échelle de 1 à 7 les propositions qu'on leur fait et qui nous disent celles qu'ils apprécient le plus. Donc évidemment, toujours pareil, on ne va pas présenter les cartes dans le même ordre, etc., pour ne pas avoir un effet de lassitude, etc., quant aux réponses. Et on obtient que ce que les personnes préfèrent, c'est à la fois l'information globale et l'information locale. Donc, ça c'est une première information. Et maintenant, on va voir quelles décisions ils prennent par rapport à cette question. Donc on leur dit... voilà, vous avez une carte. On vous demande de sélectionner un point où vous rendre parmi les 9 proposés. Alors pourquoi est-ce qu'il y en a 9 ? Parce que c'est la multiplication de 3 incertitudes globales faibles, moyennes, élevées, multipliées par 3 incertitudes sur les attributs faibles, moyennes, élevées. Et on leur demande de sélectionner parmi ces 9. Et ce que l'on observe, c'est que quel que soit le mode de représentation sur lequel on leur demande de faire ce choix, ils vont toujours prendre le point pour lequel le niveau d'incertitude général est le meilleur. Donc ils renient complètement leur première déclaration du début où ils disaient non, l'important c'est le spatial. C'est pas du tout ça qu'ils cherchent. En fait, ils vont effectivement chercher là où ils ont la plus faible incertitude. Et cela, donc, quelle que soit la présentation présentée. Donc, on a beau recueillir les usages, les personnes peuvent dire qu'elles agissent d'une certaine manière. Finalement, on se rend compte qu'elles n'agissent pas tout à fait de cette façon-là. Donc, évidemment, ce type de test est déjà un petit peu plus long à réaliser. C'est quand même assez facile de recruter des personnes, il n'y a pas vraiment de contraintes. Et les consignes sont assez simples, les gens ne se sont pas mis en difficulté. Alors, il y a quand même un biais que l'on... Enfin, il y a des milliers de biais, mais il y en a un qui est important, c'est que si on focalise l'attention des personnes sur l'incertitude, c'est sûr que ça va être leur premier critère de choix pour choisir un point d'intérêt. Or, finalement, qu'est-ce qui va vraiment déterminer le choix d'une personne sur le terrain pour un point d'intérêt? Est-ce que c'est pas c'est à côté d'un parc, ça peut être sympa d'avoir la fenêtre de son hôtel qui donne sur un parc plutôt sur une autoroute. Est-ce que c'est pas ça qui va le déterminer le choix plutôt que de savoir si je suis sûre qu'il est là ou qu'il n'est pas là? Donc ça, c'est quand même un problème important. Donc je vais passer parce qu'on m'a dit que j'avais plus beaucoup de temps. Mais voilà, on a fait d'autres tests pour, non pas pour enlever le biais du parc et de l'autoroute, mais au moins pour savoir si on choisissait différemment un hôtel, un restaurant, etc. Bon, c'est pas très, très important. La seule chose pour laquelle j'avais remis, c'est qu'on a fait donc une autre série de tests où là, on montrait à des groupes différents les propositions. Mais j'aimerais parler de la mémorisation, donc je vais, comme c'était aussi le même type de test précédemment, je préfère garder quelques minutes pour parler de la mémorisation. Alors là, on va changer totalement de projet et de thématique. Donc l'idée, c'est de représenter des phénomènes spatio-temporels et de voir comment les représentations sont perçues ou comprises par les utilisateurs, avec l'idée de faire quelques recommandations cartographiques sur ces représentations de phénomènes spatio-temporels. Ça, c'est le beau, le bel idéal de départ. On va voir qu'on va très vite être contraint par nos méthodes d'évaluation. Donc, c'était ça, en fait, c'était notre première expérience. C'est là où j'ai compris qu'avec les sciences cognitives, vous allez voir qu'on peut tester un très petit nombre de choses. Et là, par exemple, ils nous ont dit, vous allez pouvoir tester, OK pour tester la couleur. Donc, est-ce que les gens comprennent mieux donc, j'ai oublié de dire des choses. Donc, on est sur la cartographie de représentation de phénomènes d'inondation, donc de phénomènes de risque. Et on voulait tester est-ce que les personnes vont mieux comprendre une légende en couleur monochromatique ou une mélange en une légende en couleur polychromatique, avec des niveaux de risque plus ou moins élevés. Donc on a testé ça, et on a voulu tester la mémorisation. Est-ce que les personnes se souviennent? Parce que quand même, la question de la cartographie animée, c'est toujours, ok, on a vu passer une carte, mais on ne sait plus ce qu'il y avait dessus, on ne sait plus ce qu'il y avait avant, on ne sait plus ce qu'il y avait après. Est-ce que les gens finalement mémorisent quelque chose? Donc, on a testé cette mémorisation en ajoutant un paramètre à la carte, c'est qu'il y a une frise temporelle, le temps défile, et cette frise temporelle, pour certains utilisateurs, elle va être doublée d'une voix qui annonce les dates des événements représentés. Puis on aurait voulu tester cet effet-là qu'on appelle l'effet trace, c'est-à-dire quel a été le maximum d'inondations constatées sur ce cours d'eau-là, mais ça nous aurait demandé en fait de rajouter encore deux groupes de personnes à tester, parce que c'est à chaque fois je teste avec ou sans. Donc on pose des hypothèses au départ. A priori, on pense que la gamme polychromatique sera mieux perçue que la gamme monochromatique. Et la deuxième chose, c'est que il est dit souvent que le graphique animé associé avec avec le son devrait être mieux mémorisé. Donc là, le protocole, c'est un protocole avec quatre groupes. Donc il y a certaines qui voient une carte bleue sans son, d'autres qui voient une bleue avec son, d'autres polychromatiques sans son, et d'autres. Et quatrième groupe, des polychromatiques avec son. La spécificité par rapport à tout ce que j'ai présenté précédemment, c'est qu'ici, les personnes vont être interrogées pendant très longtemps. Le test, il dure plus d'une heure, une heure et quart. Et en plus, on va suivre leur regard avec un eye tracker. Donc voilà à quoi à peu près ressemble l'interface cartographique testée. Ça, c'est l'interface de l'eye tracker. On va dire, on voudrait savoir combien de fois il y a eu des temps de fixation dans ces différentes zones. Et après, on va présenter donc la carte, les cartes qui ressemblent à peu près à ça. Donc je vais présenter plutôt, je peux en présenter en fait. Voilà, bon, qui ressemble à ça avec une animation des cours d'eau au cours du temps qui vont grossir, diminuer et changer de couleur en fonction de l'intensité des pluies. Alors là, on va faire des tests pour mesurer la mémorisation, ce qu'on appelle des tests de rappel indicé. Donc en fait, on va dire aux personnes, voilà, on a enlevé un cours d'eau, dites-nous à votre avis ce cours d'eau à ce moment-là, quelle était la valeur de l'inondation. Donc là, vous imaginez la facilité pour répondre à ce genre de questions. Deuxième chose que l'on fait, on enlève la frise temporelle et on montre une carte. On dit, cette carte, elle était au début, elle était au milieu, elle était à la fin. Cette carte, c'était en janvier, en février, en mars, en avril, etc. Et cette carte, c'était en 2012, en 2013 ou en 2009. Donc là, j'ai envoyé les personnes de la scolarité faire mes tests de cartographie. Depuis, j'ai un peu plus de mal avec elles. Donc c'est des tests, vous voyez, un peu qui mettent les gens un peu plus en difficulté. Alors on a quand même un petit peu de résultats, parce qu'on a quand même enquêté quasiment 50 personnes avec ce test. Et on a, j'ai retiré qu'un seul résultat, qui était quand même le plus inattendu. C'est le taux de bonne réponse qu'on a eu pour le moment dans lequel, l'année dans laquelle se situait la carte. Donc, on n'a globalement pas des très bonnes réponses. Vous voyez qu'on atteint à peu près 25% de bonnes réponses. Mais on a des bien moins bonnes réponses quand il s'agit des personnes qui ont vu des cartes avec du son. Alors, ce qui est assez étonnant, parce qu'on se disait, on double l'information sur le temps, elles devraient mieux le retenir. Or, en fait, elles le retiennent moins bien. Pourquoi ? Là, on va regarder les données de l'eye tracker et qu'est-ce qui se passe ? Les gens, quand elles entendent le son, au lieu que ça devienne une information supplémentaire, en fait, ça les incite à ne pas regarder la frise temporelle. Or, après, on leur montre une carte qui ne parle pas, évidemment, et on leur dit, c'était à quel moment ? Et là, ils n'ont plus d'association visuelle puisque c'était le son qui leur avait dit, puisqu'ils n'ont pas regardé la frise temporelle comme on le voit ici, à quel moment ça s'était passé. Donc on voit que ce type de test, vous imaginez, est très long, trop long. C'est difficile de recruter parce qu'en plus, il faut que je dise aux personnes, surtout tu ne lui racontes pas ce qu'il y avait dans le test parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'effet d'apprentissage. Les consignes sont quand même assez complexes et en plus, il a fallu recruter plus de 40 personnes. Donc, je conclue avec les 5 minutes qui ne me restent pas, 3 minutes qui ne me restent pas.
Non, tu as explosé là.
Tu as
allez, conclue.
Moi, je sais pas, elle me dit que j'ai explosé. Donc, voilà. Donc, arriver à mesurer ce qui est perçu via des protocoles qui relèvent des sciences expérimentales, ça a l'air au départ assez intéressant, séduisant. En fait, très sincèrement, j'en suis beaucoup revenue. La première chose, c'est que ça nécessite très souvent de simplifier extrêmement la réalité. Par exemple, quand on a testé où les gens devaient aller, eh ben, on leur a dit « Ok, imaginez que vous êtes là, et puis pour pas qu'il y ait d'effet de distance, on a mis tous les points où ils pouvaient aller à égale distance. » La réalité géographique n'est jamais celle-là, ça, c'est complètement débile, entre guillemets. Deuxième chose, les gens de sciences cognitives vous disent il faut contrôler toutes les variables, donc il faut vraiment faire varier juste la chose qui t'intéresse à mesurer. Ah bah oui, mais la réalité, c'est pas comme ça. Puis moi, ce que je veux mesurer, c'est tout ça. Ça, c'était un brainstorming quand on était sur Persurite. Qu'est-ce qu'on veut voir sur nos cartes qui est résumé dans ce tableau-là? Donc, vous voyez bien que la réalité est beaucoup trop complexe pour arriver à séparer une variable. Pourtant, vous voyez très certainement que dans le monde de la visualisation, les scientifiques sont très friands de ce genre de test. Et j'ai repris, comme je l'ai fini ce matin, ce qui a été dit, la carte manque d'humanité. Ben, je peux vous dire que les méthodes de sciences cognitives manquent aussi d'humanité. Et donc, la perspective, c'est qu'à mon avis, au-delà de la perception, ce qu'il faut analyser, c'est davantage les usages. Et à mon avis, il vaut mieux se trouver... Enfin, j'ai plus envie maintenant de me tourner vers les chercheurs en sciences de la communication et de l'information. Voilà pour terminer. Excusez-moi.
Je note parce que c'est tellement intéressant que ben on a terminé cette partie-là. Donc il va nous rester un petit peu de temps pour quelques questions peut-être, parce qu'on a terminé notre session avant d'essayer de faire une pause et d'entamer sur la dernière session de la journée avec Hélène. J'ai cru voir une main, deux mains se lever.
Recruter des gens, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire une sorte de jeu sur le web où les gens se recruteraient tout seuls, voilà, c'est présenté de manière ludique et sympathique.
Oui. Donc la troisième expérience dont je n'ai pas parlé, c'est le vol à vue. Et donc sur les cartes de vol à vue, en fait, on est passé par les listes de diffusion des pilotes. Et on a fait des tests via des interfaces, via Internet, pour voir quel type de carte météo ils préféraient parmi plusieurs. Donc on a fait ça sur des échelles d'appréciation. Le problème sur Internet, c'est d'enregistrer par exemple des vitesses de réponse, des temps de réponse. Là, ça devient plus compliqué. Les échelles d'appréciation, c'est possible, et les bonnes mauvaises réponses, c'est possible. Parce qu'il y avait aussi un test sur le vol à vue sur les bonnes mauvaises réponses. Et c'est facile, enfin, je n'ai pas mis le troisième exemple, mais là c'était facile parce qu'en fait on avait une cible d'utilisateur très précise. Et je me suis rendu compte que quand on, les pilotes de vol à vue, on sait bien mieux quels usages ils font de la carte. Alors que sur les deux premières, en fait, je pense qu'on a un problème aussi de la définition de quels sont les utilisateurs de la carte. Mais en même temps, il y a quelque chose, si on ne va pas sur ce côté universel de la carte et qu'on va, ok, les cartes pour les pilotes, c'est un peu plus simple. Mais effectivement, c'est possible de faire des enquêtes via Internet. Enfin, ou via des jeux.
Moi, j'ai une question par rapport à l'expérience 1. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir compris en fait la tâche qui était demandée aux utilisateurs, enfin, aux gens qui étaient expérimentés dans le test. Parce que du coup, vous parlez d'efficacité. En théorie, quand on prend le protocole du test, on demande en fait l'efficacité, c'est relatif à une tâche. Et donc, du coup, là, vous demandez en fait aux gens si ils aiment, enfin, s'ils préfèrent telle ou telle représentation. Il n'y a pas de tâche interactive associée le tâche associée à la carte que j'ai bien fait.
Celle-ci ?
Oui, celle-ci. Parce que l'efficacité d'une carte, c'est relative à...
Donc là, on leur demande pas... C'est pas une question sur est-ce qu'ils apprécient ou pas. C'est ils doivent trouver, en fait, comme il y a trois niveaux d'incertitude... Sur chaque carte sont représentés deux niveaux d'incertitude et ils doivent dire le plus rapidement possible lequel défigurer. Donc on ne les voit pas parce qu'ils sont assez petits, donc normalement c'est dans un écran un peu plus large, mais il y a deux figurés sur chacune des cartes et ils doivent trouver lequel présente le niveau d'incertitude le plus faible. Donc ce n'est pas un niveau d'appréciation, la tâche c'est trouver où est-ce que l'incertitude est la plus forte ou la plus faible le plus rapidement possible.
Je ne sais pas si j'ose faire ma remarque, mais faire varier un facteur à la fois, c'est le degré zéro de la planification d'expérience. Donc ça serait peut-être important de leur faire savoir qu'il y a des outils en statistique qui s'appellent les plans d'expérience et qui permettent de faire un peu mieux que ça, enfin même nettement mieux que ça.
Il y a une réponse
?
Parce que sinon il y a une autre question.
Ouais, ben bah, pas une autre question. Non, mais j'ai pas de réponse.
Je sais pas si elle sera plus simple, mais c'est la dernière réaction que je trouve intéressante. Est-ce que tu peux juste développer rapidement ? C'est rigolo que tu tournes vers les sciences de l'infocom alors qu'on a plutôt tendance à toujours vouloir retourner vers les sciences cognitives. Tu penses qu'elles vont t'apporter quoi les SIC là-dedans ? Concrètement, parce que c'est plus qualitatif, ça peut être du discours, etc. Ou je sais pas.
Ouais, bah c'est je pense que c'est le plus qualitatif qui m'intéresse. Okay. En fait, je trouve que les résultats sont souvent assez évidents et qu'en fait, on finit par tordre complètement la carte de l'expérimentation pour que. Mmh. Et que finalement, mais qu'est-ce qu'on. Enfin, je veux dire, quand ils m'ont fait. Enfin, c'est pas moi qui l'ai faite, mais quand. Quand on en est arrivé à tester ça, je me suis dit, mais là, c'est n'importe quoi. Enfin, je me disais, mais non, mais ça ne va plus, là. Et donc, j'avais la prof de sciences cognitives qui était en face de moi et qui disait, non, mais tu vois, je sentais qu'on n'était plus du tout sur les mêmes... la complexité de la carte, eux, leur but, c'est... Enfin, leur but, ils n'ont pas de but, mais ils se disent faut partitionner au maximum pour arriver à tester, pour être sûr que ce que tu mesures, c'est bien ça. Et finalement, est-ce qu'on a... Voilà. Bon, alors, je ne sais pas, moi, je ne sais pas répondre à la question d'avant. Mais peut-être qu'Hélène, tu pourrais m'aider.
Moi, je n'étais pas dedans. Par contre, je ne sais pas si la question... porte sur, en fait, moi, ce qui me trouble là, c'est de savoir est-ce que les sciences cognitives, ils ont une connaissance des pratiques de l'espace, et donc, parce qu'on projette tout ça quand on regarde une carte, on projette. Donc forcément, c'est de l'interdisciplinaire, et ça ne m'étonne pas que ce soit compliqué de mettre en place un protocole qui est... Après, pour la question là, est-ce que du coup, si déjà on a du mal à mesurer un facteur, à faire varier un facteur, après, statistiquement, évidemment, on sait faire varier, faire des plans d'expérience. Mais là, la question est différente, c'est est-ce qu'on comprend, est-ce qu'on est capable de dissocier ce qu'on mesure ?
Enfin, ouais, mais j'arrive pas à l'exprimer comme...
Alors, je crois qu'on est parti dans le débat, là, non ?
Il y a encore des questions là-bas. On va excuser la pause, je pense, parce qu'il est déjà 15h20.
Je suis autant interloqué que tel tout à l'heure à propos du plan d'expérience. Parce que déjà, rien que la façon de comprendre les choses peut nous mettre dans plusieurs plans à la fois. Quand vous dites « je vois », est-ce le réflexe du nerf de l'œil qui vous dit « je vois » ou est-ce le cerveau qui a reconstruit une vision après cette sensation qui vous dit « je vois » ? Parce que la grande question là, c'est juger après avoir vu. Donc, voir, regarder, peut se retrouver confondu. Et il y a des langues dans lesquelles on vous dira qu'entendre et comprendre, c'est la même chose. Que tous les sens qu'on a se résument à deux sens, ou à trois. Donc, je m'interroge, moi aussi comme elle, devant la perplexité de la simplification, quand nous savons que la lecture et la restitution peuvent être compliquées par la façon de dire ce qu'on a vu ou ce qu'on sait. On peut bien avoir senti quelque chose si le bonhomme est sous anesthésie et qu'on lui met des électrodes, on verra des vibrations. Mais est-ce que son cerveau a lui bien lui restitue ce qui s'est passé? Respecte la courbe de ses vibrations. Les collègues en sciences cognitives sont très prudents là-dessus aussi, dans les plans d'expérimentation.
C'était une question, une remarque par rapport justement à cette difficulté de travailler avec les sciences cognitives. Pour revenir sur ce qui est parallèle, je crois, sur les usages, ici, c'est gênant de simplifier trop la réalité, mais en soi, elle est, dans une carte comme ça, extrêmement complexe, justement parce qu'ils sont, vous n'avez pas précisé, est-ce que les gens connaissent la zone qui leur est projetée?
Et il fallait qu'ils ne la connaissent pas. Enfin, c'était une.
Mais ne serait-ce que culturellement, on va chercher des repères dans une carte par rapport à l'échelle, par rapport à l'orientation, par rapport à la légende. Et s'abstraire justement de tous ces éléments-là, c'est ce que font beaucoup les sciences cognitives en stats, en regardant le poids d'un graphique, en regardant le poids de l'orientation dans le futur de Bertrand, etc. Et c'est comme ça aussi qu'on arrive justement, en simplifiant l'information, à avoir une réponse qui ne soit pas faussée par tous les autres éléments.
Ouais.
C'était juste en défense un petit peu du point d'expérimentation complet.
Ben là, par exemple, on choisissait quelque chose qui est à Budapest et le questionnaire d'inclusion, comme ils disent, la première question, c'était est-ce que vous êtes déjà allé à Budapest ou pas? Si vous êtes déjà allé à Budapest, passez votre chemin, vous n'allez pas faire le test. Bon, c'était un petit contrôle. Parce que, sur cette carte-là, il y a beaucoup plus d'éléments. Il y a des stations de métro. Là, les transports en commun, c'est un élément fondamental quand on choisit une localisation. Donc ça peut pas être... Là, c'est pas assez neutre.
Je te laisse.
Pas d'autres questions? Alors, on avait prévu de faire une petite pause entre les deux sessions. On va essayer de la faire quand même parce qu'il va y en avoir besoin.